Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes la lumière du monde. » Comment des hommes, fussent-ils disciples du Christ, peuvent être lumière du monde ? N'y a-t-il pas là une prétention époustouflante, insupportable ? La première chose à dire, c'est que, avant que nous soyons proclamés par le Christ, nous, lumière du monde, lui a commencé par dire « Moi, je suis la lumière du monde ». Et donc, si nous sommes lumière du monde, nous ne sommes que des lumières dérivées, des reflets de l'unique et grande lumière qu'est le Christ lui-même. Et comment cela ? D'une manière peut-être inattendue, non pas par des œuvres extraordinaires, mais par une seule chose, mais une chose qui, elle, est réellement capable de convaincre, de conquérir les cœurs. Et cette chose, c'est tout simplement, comme le Christ le dit lui-même, « Voyant ce que vous faites de bien, les hommes rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. » Ainsi, accomplir le bien a le pouvoir de conquérir les cœurs, non seulement bien sûr de ceux qui accomplissent ce bien, mais de ceux qui en sont les témoins, des témoins ouverts à cette lumière. Et c'est ce que Jésus nous dit dans l'évangile de Jean pour pointer la force de ce témoignage de l'amour réellement vécu. Au chapitre 17, dans sa grande prière qui précède son entrée dans la Passion, Jésus s'exclame « Qu'ils soient un, il parle de ses disciples, qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » C'est au spectacle de cette unité fraternelle vécue dans une charité humble et serviable que les disciples deviennent lumière pour le monde. Et c'est bien ce que dit un psaume que nous chantons de temps en temps, le fameux psaume 132. Oui, il est bon, il est doux pour des frères de vivre ensemble et d'être unis. Ça, c'est le début du psaume. Et la finale, qui ne peut s'expliquer que par le début, c'est là que le Seigneur envoie la bénédiction, la vie pour toujours. Non seulement cette vie fraternelle vécue en vérité et humblement et pauvrement au jour le jour, mais résolument, est lumière pour le monde, mais elle attire irrésistiblement la bénédiction de Dieu. Elle rend d'une certaine manière efficace cette vie fraternelle pour qu'elle devienne témoignage. Il est surprenant de voir à quel point la prière après la communion que le prêtre prononcera tout à l'heure est en pleine concordance avec cette vérité. Voici ce que nous prierons avec lui. Accorde-nous de vivre tellement unis dans le Christ que nous portions du fruit pour le salut du monde. Vivre unis avec le Christ a une conséquence immédiate sur le monde. Vivre unis avec le Christ porte du fruit. Et nous comprenons aussi à quel point le contre-témoignage de la division, de la haine, porte, lui, des fruits de mort. Nous voyons à quel point nous sommes responsables de ce témoignage que le monde attend. Vous êtes le sel de la terre, et si le sel se dénature, s'il devient fade, il n'est bon qu'à être jeté sous les pieds des passants. Je crois que physiquement parlant, le sel ne peut pas perdre comme ça, comme par enchantement, sa saveur. La façon dont le sel perd sa saveur, c'est quand il est dilué dans une trop grande quantité d'eau, à tel point que cette eau devient de la lavasse. Eh bien là, il y a une image de ce que peut devenir notre vie si elle n'est pas animée par cet amour. Cet amour constamment ressuscité, si j'ose dire. Jésus nous prévient dans la parabole du semeur qu'il y a une façon d'accueillir la parole de Dieu avec joie, avec empressement, avec enthousiasme même, mais de la laisser mourir, parce qu'on se laisse emporter par les soucis et les plaisirs de la vie. Nous avons donc une responsabilité, chacun de nous, quant à la manière dont nous accueillons cette parole de vie que sans cesse l'Église nous distribue en abondance. Et la meilleure façon de pouvoir la laisser vivante, non seulement de la laisser vivante, mais de la rendre féconde, je crois qu'elle est double. C'est la prière, tout d'abord. Recevoir cette parole de vie a besoin, pour être fécondée, d'être constamment retrempée dans le climat de la prière. Fais, Seigneur, que cette parole que tu déposes dans mon cœur aujourd'hui porte du fruit, que je ne l'enterre pas par mon égoïsme, mon indifférence, ma froideur et tant d'autres choses. Les soucis de la vie. Et la deuxième façon, bien sûr, de faire porter fruit à cette parole reçue dans le secret du cœur, c'est la charité fraternelle. C'est l'amour que nous mettons à nous traiter les uns les autres. Et là, nous retrouvons ce que nous entendions dans la première lecture en allemand, le chapitre 58 d'Isaïe, qui est tout à fait clair. Isaïe a déjà exprimé ce qu'on appelle dans l'évangile de saint Matthieu au chapitre 7, la règle d'or. Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux. Et je cite maintenant Isaïe, « Si tu donnes à celui qui a faim ce que toi tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera. » Nous voyons bien, une fois de plus, que c'est l'authenticité de cette charité fraternelle, vécue au jour le jour, dans le quotidien, dans les choses les plus simples, qui devient lumière. Lumière qui se lève dans les ténèbres. Et cette lumière, elle naît parce que j'ai compris, parce que j'ai reçu le fait, que j'ai accepté que mon frère est, comme le dit Isaïe un peu plus haut, il est ma propre chair. Et comme dit saint Paul, personne ne méprise sa propre chair. Aimer le frère comme sa propre chair. Voilà le secret. Eh bien, demandons au Seigneur aujourd'hui, pour pouvoir être effectivement être ce sel, cette lumière, de nous laisser pénétrer de son amour, d'accueillir cette semence d'amour en nous, afin qu'elle devienne réellement lumière.